Julie Gagné, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Richard.
Ah, Julie est habituellement fait une chronique en art visuel dans l'émission du matin à CKRL.
Oui, exactement.
Et également le vendredi soir avec une...
Le dimanche soir, l'émission dans mon petit panier, mais ça se termine en fait avec la programmation d'été. Par contre, ben je reviens en force avec l'émission Scrapbook le mardi à 17h30.
C'est elle qui vient là, ouais.
Oui, exactement.
Ah, bravo. Donc après, au mois de juin, donc.
Oui. Mm.
Alors, Julie, comment tu as trouvé ça, toi, le vernissage d'ouverture?
Bien, mon Dieu, j'ai vraiment senti que c'était l'événement qui était attendu. On sent vraiment que la Manif d'art a une place considérable à Québec. C'était bourré de monde, mais
Jean-Pierre parle de 1000 personnes. Est-ce qu'il exagère un peu?
Mon Dieu, tu as raison,
oui.
Je pense qu'on pouvait facilement percevoir ça comme étant 1000 personnes. C'était fou, là.
Parce que ça roulait aussi. Il y a des gens qui sont arrivés ici à 6 heures, mais il y en a qui ont quitté à 8 heures.
Il y en avait dans la rue.
Il y en avait dans la rue, puis il y avait des gens qui arrivaient, d'autres qui repartaient. Ouais. Fait qu'il y a certainement, probablement au moins 1000 personnes qui sont passées ici.
Bien, moi, c'est fou. En fait, je suis arrivée peut-être vers 5h15 en me disant « je vais profiter de la tranquillité avant le vernissage ». Et effectivement, j'ai pu en profiter. Uh-huh. Sauf qu'au fur et à mesure que je visitais l'exposition, ça se remplissait. Là. On avait de la misère à circuler, même la file pour aller prendre la consommation gratuite. Je faisais quasiment le tour du local ici. Mais vraiment, il y avait de l'électricité dans l'air. On sentait que tout le monde était fébrile par rapport à toute cette foire, finalement, d'art contemporain. Donc, c'est ça. Moi, finalement, quand ça a été un peu plus plein, je me suis dit, bon, j'allais voir de l'autre côté avant l'inauguration officielle.
L'autre côté, tu veux dire l'autre édifice
au 840.
Au 840, oui.
Et là, j'arrive là-bas et là, je vois une rangée de personnes habillées en blanc avec des cagoules noires. Mais sur le coup, au travers de la vitrine, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est des sculptures? Mais j'étais passée en face avant et je n'avais pas vu ça. Finalement, j'arrive et je me rends compte que c'est les gens qui sont avec Richard Martel qui attendent déambulatoire.
Oh là là, oui.
Et d'ailleurs, ils ont fait les statues là-bas. Mais par contre, quand ils sont arrivés ici, ils ont déambulé parce qu'à leurs pieds là-bas, ils avaient un cabaret dans lequel il y avait des objets assez hétéroclites. Hein?
Oui, vraiment, il peut y avoir comme des petites poupées russes, un livre, n'importe quoi, mais c'était de les voir faire la statue. Puis nous qui passons au travers d'eux. Mmh. Donc, c'est un peu, on les perçoit presque comme des objets d'art. Mmh. Puis quand on passe à côté, ben, on voit un œil, des yeux qui clignent.
Il y a quelqu'un en dessous.
Oui, c'est ça, un petit mouvement de tête. Et là, ça devient presque intimidant. Mmh. C'est vraiment particulier.
Donc, la rencontre, hein, c'est sûr. Hein, c'est
oui, vraiment. La rencontre, mais qui se fait dans un sens unilatéralement, dans la mesure où il n'y a personne.
Il n'y a pas de réaction.
Non, exactement. Mmh, là, ils ne nous regardaient pas du tout, le regard dans le vide ou ailleurs, sauf dans les yeux. Mais ce qui était particulier, c'est quand ils ont commencé à compter en canon. Donc, je crois que c'est Richard Martel qui a commencé à compter. Donc, 1, 2, 3. Et là, de manière qui semblait tout à fait aléatoire, il y a une personne dans la file qui commençait à compter, tout ça, jusqu'à ce que tout le monde compte. Et là, j'ai pas remarqué jusqu'à quel nombre ils ont compté. Puis après ça, ils sont partis, ils ont pris leur plateau, puis ils sont partis de manière solennelle. Donc, fallait quand même être là.
Puis ils ont déambulé jusqu'ici.
À pied, donc.
À pied, sur la rue. C'est à peu près 5-7 minutes entre les deux locaux. Et ils sont ici, c'était plein. Alors, eux, ils se promenaient à travers les gens qui étaient ici au 509. Et c'était assez particulier de voir cette enfilade. Évidemment, par ordre croissant, Richard était en avant, le plus petit, puis avec ce sont des étudiants. J'ai vu Richard hier soir aussi.
Des étudiants d'École des arts visuels.
Ce sont des étudiants à l'Université Laval auxquels il va donner un cours à partir de lundi, un cours en art actuel, en art contextuel, en art relationnel. Enfin, on connaît le travail de Richard Martel. Donc, c'était assez particulier ici.
Oui, assez particulier. Là, je vous parle pas des œuvres tout de suite. Je parle vraiment de mon parcours. Après ça, je me dis, bon, je vais aller voir l'exposition de Félix Leblanc qui venait tout juste de terminer du côté du cercle. Ouais. Et là, je passe dans la rue et là, je vois cette espèce de camion-là, justement, le Milk Float. Puis là, je fais, enfin, il est là. Tu sais, j'avais vraiment hâte de le voir. L'attroupement dans la rue, cette espèce de structure qui a l'air brinque-ballante.
Comment les gens réagissent? Les passants, par exemple, est-ce que ça rigole? Est-ce que c'est
sérieux? Les gens, je pense qu'ils étaient complètement fascinés. En fait, tout le monde avait vraiment l'air d'apprécier le Milk Float, de le regarder. de dire comment ça fonctionne, cette patente-là, tu sais, parce que c'est plein de détritus urbains, finalement, des roues de vélo, des pelles, des scies, etc., qui sont orchestrées de manière à visuellement être intéressantes. Donc, il y a des lumières, il y a des couleurs, tout ça. Puis en plus, ça fait du son, comme tu disais, Jean-Pierre. Mais on sent vraiment, moi, ça me fait presque penser à la musique d'Amon Tobin. Là. C'est quasiment techno-industriel.
Il y a un rythme, hein, c'est ça. Ouais.
Moi, à un moment donné, j'avais l'impression d'entendre du Tom Waits.
Ouais.
Il y avait des sonorités là, qui ressemblaient beaucoup aux textures qu'on retrouve sur les disques de Tom Waits.
Par ailleurs, il y a un des gars de l'orchestre de Morquès qui était là, puis je lui ai dit, tu dois aimer ça, toi, puis il dit, moi, je capote. Comment ils font. Là. C'est vraiment génial.
Le Morquès, il y a un peu le même esprit, hein, d'un peu de folie créative là, dans
deux. Hein,
c'est ça,
en fait, c'est la machine.
La machine, oui, c'est des...
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, elle était stationnée. Puis là, on a entendu vraiment la progression vers le son plein. Mais plus tard, quand je suis revenue du cercle, là, le Milk Float se promenait dans la rue. Puis c'était de voir ça aller. Ça a l'air tout fragile.
C'était
de voir aussi les gens qui passaient en arrière de ça en voiture qui étaient comme, qu'est-ce que c'est ça?
C'est bon parce que, dans le fond, d'ici le 10 mai, on va pouvoir voir arriver cette machine-là dans le quartier ici. Donc, soyez attentifs.
Mais ce qui est le fun aussi, c'est de voir qu'il y a plein de manifestations extérieures qui mettent vraiment le centre-ville de Québec dans un état d'effervescence, comme je disais tantôt, et qui fait sentir qu'il y a un événement important.
C'est la manif.
Qui se produit. Je me promène dans la rue, puis là, je regarde, est-ce que c'est une œuvre?
Ou si c'est quelqu'un de bizarre.
Oui, c'est ça, mais ça nous met dans un état d'éveil qui est vraiment fascinant.
Il y a d'ailleurs quelqu'un dont je pense que tu as vu une œuvre qui est... Sylvie Cloutier, qui fait des petits médaillons qu'elle applique un peu sur le mobilier urbain ou dans des endroits publics.
Oui, bien, en fait, moi, je suis allée à la salle de bain au 840 Saint-Joseph. Mm-hmm. Là, il y a, les petits dessins pour...
Hommes-femmes, là.
Hommes-femmes, exactement. Ouais. Et la tête de la femme, je vois qu'il y a un petit visage qui est dessiné. Puis je fais, ah bon, qu'est-ce que c'est ça? Mm-hmm. Mais finalement, c'est toi, Jean-Pierre, qui me l'a dit. C'était quoi? J'ai trouvé ça génial parce que c'est plein de petites surprises qu'on va retrouver.
Et des surprises comme ça, il y en a un peu partout dans Saint-Roch, dans Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'ai su qu'elle en avait posé une bonne quantité. Et donc, ça fait partie des petits clins d'œil de la manif d'art dans le public, la rencontre avec les citoyens dans leur caractère public.
Sortir des lieux convenus, des galeries d'art où tout le monde pense que c'est sérieux, sortir dans la rue, aller à la rencontre des gens.
Exact.
Exactement, mais ça se fait quand même de manière très subtile parce qu'avant qu'on réalise que c'est une petite œuvre qui relève de la manif d'art, je trouve qu'il y a vraiment un concept intéressant. Puis comme tu disais, Jean-Pierre, aussi, l'idée, c'est que les gens les prennent et se fasse un petit souvenir.
En fait, on n'est pas supposé de dire ça, mais ça a l'air qu'il y aurait un peu cette intention-là de l'artiste derrière ça.
OK, fait que là, j'ai
mais cela dit, elle va revenir. Je sais qu'elle va revenir. Nous, on va la recevoir ici la troisième ou la quatrième semaine de l'année. Alors, on va faire une petite pause, puis au retour, on va parler des artistes dont tu as vu les œuvres.
C'est bon.
Alors, nous sommes toujours avec Julie Gagné, notre collaboratrice aux arts. C'est une émission en arts visuels.
Oui, effectivement.
Alors, Julie, tu as eu l'occasion de voir quand même un certain nombre d'œuvres ici, malgré la foule qui s'y était rassemblée.
Oui, en fait, c'est sûr qu'une première visite à la manif d'art, c'est marqué par une espèce d'impatience. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à voir qu'on regarde une œuvre, puis on se dit, ah, mais là, il y a l'autre à côté, puis là, il y a l'autre, puis il y a l'autre. Fait que ça vaut vraiment la peine de revenir parce que ce qu'on a comme première visite, c'est une prémisse de réflexion. Mm-hmm. C'est, on a toujours, le thème de la rencontre en tête, d'essayer de voir comment il s'articule dans l'œuvre des artistes. Bon, il y en a qui c'est très, très évident, d'autres où ça l'est moins. Mais de prime abord, il y a quelques œuvres qui m'ont frappée. Mm-hmm. Premièrement, l'œuvre de Doyon Rivet.
Le siècle
des Lumières.
C'est très beau, hein?
Oui, c'est beau.
Et moi, hier soir, c'est curieux que tu me parles de ça parce que moi, hier soir, j'ai croisé Doyon hier, puis j'ai dit, je voyais encore, il y a plusieurs niveaux de lecture à cette œuvre-là, c'est extraordinaire.
Mais tu sais, c'est que de prime abord, t'arrives, t'as l'impression de voir un ciel étoilé.
Mm-hmm.
Quand tu regardes de loin, là, tu t'approches, tu dis, ah, c'est intéressant, c'est des visages. Après ça, tu regardes comme faux, puis finalement, c'est des visages qui sont éclairés soit par des cellulaires, par des lecteurs MP3, ou toutes sortes de babioles, finalement, technologiques. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des moments d'intimité qui sont croqués sur le vif, mais un moment d'intimité qui est banal, qui est quotidien, c'est, composer un numéro pour appeler un ami, c'est choisir une chanson. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment tous ces visages-là, finalement. Puis ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est tous les éclairages.
Oui, ça, c'est très beau.
Éclairages rougeâtres, bleuâtres. Ouais. Entre blanchard, journal, tout ça. Et toutes les expressions aussi qu'il y a sur les visages. Il y a du découragement, de la fascination.
Mais là, il faut prendre le temps de regarder pour voir ça. Parce qu'au tout départ, c'est vraiment comme un ciel étoilé. Hein, vraiment. Ouais. Donc, il y a une progression dans notre rencontre avec l'œuvre en question.
Ouais. Oui, ça aussi. Mais je pense aussi à l'idée de... mon Dieu, c'est de la rencontre, mais qui se fait... J'ai perdu mon idée.
On voit plein de gens sur une terrasse qui ont tous des téléphones, mais ils parlent à quelqu'un d'autre.
Ben, oui,
ils
ne
parlent pas entre eux, mais ils refont un peu ça.
C'est ce que j'allais dire. Moi, ce ciel étoilé-là, c'est qui est paradoxal là-dedans. C'est un réseau, c'est un grand réseau. La téléphonie fait appel à un réseau. Et tout ce monde-là a l'air tout seul dans son
exactement.
Univers.
Oui, exactement.
Et il n'y a personne qui communique ensemble. C'est assez... Puis on est... Moi, je voyais aussi que nous sommes tous des poussières d'étoiles, tu sais, donc là, l'évolution des étoiles est retournée dans le ciel avec des humains qui ont pris le ciel.
Ouais, c'est comme un firmament d'individualité, finalement.
D'individualité.
Ouais, mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je trouvais que ça présentait notre rapport à la technologie, finalement, le besoin qu'on a de recourir à des objets technologiques, mais surtout de communiquer à travers ça, quand on pourrait se parler face à face.
On appelle ça dans des... comme des béquilles.
C'est comme une...
Oui.
Hein? Puis, évidemment, comme toujours, Doyon Rivet ont signé le ciel.
Ouais.
Ils se sont appropriés le ciel. Ils ont
c'est la marque de commerce.
Ils ont signé le ciel comme on signe une œuvre, comme on signe quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est Ben Vautier, le Français, qui était venu ici puis qui avait signé Dieu, qui avait signé... Doyon et Rivet ont signé le ciel, ils sont appropriés le ciel. C'est extraordinaire.
Ouais, donc, une œuvre vraiment intéressante où on peut facilement se perdre dans la contemplation de cette œuvre-là, rester là longtemps. Mais vraiment longtemps, regarder toutes les visages, toutes les expressions, tout ça. Donc, très belle œuvre.
Très technique, vous allez me dire, mais c'est très bien imprimé. C'est un travail magnifique. Techniquement, c'était superbe.
Ça a été fait chez vous.
Oui, exactement. Bon, alors, nouvelle machine.
Oui.
Une autre œuvre que j'ai vraiment appréciée, en fait, je pense que pour l'instant, c'est mon coup de cœur de Manif d'art, c'est Christophe Migonne.
Oh mon Dieu!
Auditorium. Ouais. Donc, une installation vidéo et sonore. Je pense que tu l'as aimé aussi, Jean-Pierre.
On est dans le même club, je pense. c'est une œuvre très paradoxale. Quand la rencontre est sur le point de se faire, elle ne se produit pas.
Oui, exactement. En fait, c'est que c'est vraiment un rapport d'inclusion et d'exclusion. Donc, si on met un peu en contexte pour les gens, tu arrives dans une salle, il y a une vidéo, ce sont peut-être 5-6 personnes assises sur un divan avec des écouteurs. On n'entend pas ce qu'ils entendent, on les voit réagir au son qu'ils écoutent. Et là, sur le mur, il y a des écouteurs qu'on peut prendre. Mais le risque qu'on prend en prenant les écouteurs, de se les mettre sur les oreilles, c'est de couper la vidéo, de couper le son et de finalement être tout seul à entendre. Donc, on prive les visiteurs de ce qui se passe.
Ben oui,
puis deux, c'est qu'en voulant s'inclure, on finit par s'exclure nécessairement, puis on exclut les visiteurs. Donc, il n'y a pas de communication réelle. Qui peut être faite...
Mais ça, c'est intéressant parce qu'on va retrouver des choses comme ça avec, je pense, à Anne-Marie Ouellet, avec ces choses qu'on se met sur la tête.
Oui, oui.
Une espèce de...
L'isoloir.
Donc, un instrument qui devrait être convivial, mais qui sert à isoler davantage les personnes. Oui. On va retrouver ça aussi avec Pascal Martinez en vidéo, où il y a une personne qui se déshabille sans arrêt, en boucle, puis on a écrit sur sa poitrine « Ad vitam aeternam », mais qui, en fait, c'est la rencontre, mais qui se reproduira jamais, parce que plus que la vidéo avance, plus qu'elle s'affadit, ça devient blanc.
On a l'impression de voir à travers un écran de fumée. Puis c'est frustrant, ça, pour le spectateur aussi.
Ouais, mais c'est beau.
Oui, mais je veux dire, conventionnellement, quand on regarde une image, on s'attend à avoir une certaine netteté.
Mais
là, on l'a pas.
Et plus ça va pire c'est. Plus ça va, moins c'est, moins c'est net.
Puis, Julie, je reviens sur ce que tu disais. On, avec les nouvelles technologies, alors qu'on devrait avoir des moyens de communication fabuleux, il devrait avoir une meilleure communication, bien, il y a des artistes ici qui rendent compte que c'est le contraire, qu'on s'isole. Ouais. Tu vois, c'est ça l'affaire.
Et Eva Kenta, jusqu'à un certain point aussi, travaille cette question-là avec les rencontres pas possibles et, ou encore les gens qui se rencontrent sans se rencontrer, qui se croisent sans se rencontrer. Mmh. Enfin, c'est un très bon thème qui est abordé de multiples façons, comme on l'a dit quelques fois.
C'est exactement, c'est la rencontre sous toutes ses facettes. Oui, et...
Un dernier exemple, Julie?
Un dernier exemple, mon Dieu, là, tu me demandes choisir. Là. je te dirais Jean Dubois. À Portée de souffle, du côté du 840 okay. Saint-Joseph. C'est complètement fascinant. C'est une vidéo qui nous présente un gars, une fille face à face qui gonfle des ballons, donc des chewing-gums finalement. Puis lui, Jean Dubois, ce qu'il dit, c'est que l'air, c'est un fluide qui va passer d'individu à individu. Donc, on inspire des atomes de tout le monde, finalement. L'air qu'on inspire a été inspiré par Adolf Hitler, Bouddha, Marilyn Monroe, et etc.
L'air usagé.
Oui, exactement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le cartel, il y a un numéro de téléphone. Donc, on appelle et avec le cellulaire, on souffle dans le cellulaire et là, c'est nous. Qui soufflons les ballons des deux protagonistes sur la vidéo.
Mais j'ai vraiment... C'est le cas de le dire, Richard.
Mais j'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment... C'est exactement l'incarnation de son propos.
Ben
donc, l'air que nous, on inspire, va être inspiré par quelqu'un d'autre. Donc là, on peut s'amuser, en fait. Moi, j'essayais de souffler un petit peu, beaucoup, de créer du rythme dans tout ça. Puis c'était beau de voir les gens qui rigolaient autour de ça. C'était vraiment...
Il y a beaucoup d'humour. Il y a un peu d'humour partout dans la chose. C'est drôle. Hein?
Oui, mais il y a une œuvre qui m'a beaucoup rentré dedans, moi, qui est pas vraiment pas humoristique, qui est beaucoup plus cynique. C'est l'œuvre d'Hélène Tremblay.
Ah, j'ai pas vu ça.
Ça, on y reviendra. C'est l'artiste qui se met en cage, en oiseau, et qui est au sol dans un écran moniteur. Au-dessus de cet écran-là, il y a une cage à oiseau. Quand on arrive devant l'œuvre...
Ça, c'est au 840, hein?
C'est ici.
C'est ici.
Ah, j'ai pas vu encore.
Et quand on arrive, il y a un voile par-dessus la cage et on entend un oiseau qui chante. Et à un moment donné, ce voile-là se lève. Et ce qui apparaît en bas, c'est la fille qui est l'artiste qui est nue et qui a un bec d'oiseau et qui se déplace de façon assez
qui se prend pour un oiseau.
Et on ne peut pas la nourrir.
C'est ça, il y a des graines de tournesol par terre, il y a un petit pot avec des graines de tournesol, des graines à oiseaux, puis on ne peut pas la nourrir. Mais en même temps, il y a toute l'idée de la folie, de l'isolement, de l'enfermement, parce qu'elle a l'air dans une cellule ou dans une cellule d'hôpital psychiatrique ou quelque chose comme ça. C'est lourd.
Il y a aussi le rapport de l'artiste dans le public, la place que le public fait à l'artiste. Il est au sol.
J'ai manqué ça. J'ai couru.
Ça, c'est une œuvre qui est très, très noire, quant à moi. Là. Puis d'ailleurs, je ne comprends rien que le filet par-dessus est noir. Bien, écoute, Julie... C'était bon pour une première fois.
Bien, merci, mais mon Dieu, j'en avais tellement d'autres encore.
Gardez-en,
on a 7 émissions, alors tu pourras revenir.
Excellent.
Merci.
Bye-bye.
Ciao.